ce qui a modifié évidemment la pratique des enseignants en éducation aux médias et l'information.
On a 45 absences pour ce matin.
C'est bien évidemment l'apparition des plateformes de médias sociaux.
Handicap et scolarité revêtent des situations très différentes auxquelles l'inclusion tente de répondre.
Sans école, il ne veut plus en franchir la grille.
Selon une étude, un quart des écoles ne propose aucune éducation à la sexualité.
Pour l'instant, l'institution ne prend pas la mesure du mal-être dans l'éducation nationale, ça c'est sûr.
Mais l'école, elle sert également à apprendre ce qui se passe dans le monde.
C'est l'élève au centre parce que c'est lui le plus important dans le système en fait.
Bienvenue dans l'heure de colle.
Bonjour à tous et à toutes, asseyez-vous, sortez vos trousses et vos cahiers et bienvenue dans l'heure de colle, l'émission pilotée par les étudiants en master journalisme à l'ESJ Pro Montpellier et à l'université Paul Valéry. Je m'appelle Rose Macaulay et je suis votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Cette semaine, nous poursuivons sur le thème du décrochage scolaire, un défi pour les acteurs du système scolaire. En France, des systèmes de lutte sont mis en place depuis la dernière décennie comme la mission de lutte contre le décrochage scolaire. En Occitanie, région très touchée par le décrochage, des antennes se déploient dans les grandes villes. La prévoyance est également à l'ordre du jour. Les établissements scolaires tentent de mettre en place des formats de tutorat pour les élèves, chez qui une crainte de décrochage a été détectée. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur les solutions à ce décrochage. Services civiques combinés, soutien psychologique, associations de retour aux études, tout est bon pour permettre à ces jeunes de se réinsérer. Pour répondre à nos questions, ce n'est pas un, mais deux invités que nous accueillons en studio. Pour commencer, Frédéric Lolland, responsable Languedoc-Roussillon de l'association Énergie Jeune. Bonjour Monsieur Lolland.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
À ses côtés, nous avons Jean-Paul Haut, responsable de l'association Almanova. Pardon. Bonjour Jean-Paul Haut.
Bonjour, bonjour à tous.
Ce sera Flavien Delcloc qui aura la charge de mener cette double colle. En seconde partie d'émission, Lou Jourdrin et Axel Juin nous emmèneront parler avec Inès Tézac et Cécile Lopez, deux anciennes décrocheuses. Elles leur ont livré leur témoignage et ce qui leur a permis de se raccrocher au système scolaire. Pour finir, Laura Battista nous livrera sa chronique « Ailleurs, c'est comment ?». Elle nous parlera d'une manière toute particulière de gérer le décrochage scolaire dans une ville italienne. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus sur les solutions au décrochage scolaire. Si vous êtes prêts, l'heure de colle, c'est parti!
Tout le monde est déconnecté des univers qui ne sont pas les siens.
On fait preuve de transparence, d'autocritique, on essaie de n'oublier aucune question qui fâche.
L'interview.
Nous accueillons Flavien Delcloc en studio. Bonjour Flavien.
Bonjour Rose, bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, avant toute chose, messieurs, est-ce que vous pouvez présenter vos associations respectives? Monsieur Lolland, par exemple.
Je vais commencer. Alors, effectivement, nous, c'est l'association Énergie Jeune. Donc, on est une association nationale qui a 14 ans. Et moi, je suis le représentant régional, ex-Languedoc de Roussillon, donc de Perpignan à Bagnoles. Nous sommes là pour lutter contre le décrochage scolaire. Et des fois, nous préférons employer le terme « lutter contre le fatalisme social et territorial ». C'est vrai que ce mot-là... Il représente beaucoup. Le fatalisme social, c'est assez simple. C'est le jeune qui est dans une cité, qui voit ses camarades qui sortent de l'école, qui a des parents, malheureusement, qui n'ont pas de travail, et qui, pour lui, sa condition sociale fait que son destin est tout tracé, quoi. Et malheureusement, il va finir au chômage. Non, nous, on dit non à ça. Non, non, c'est pas vrai. Et on va essayer de le sortir un peu de ce contexte-là et de ce raisonnement-là. Et le fatalisme territorial, c'est aussi, on a beaucoup ici dans le département de l'Hérault ou dans le Gard ou dans les PO, les Pyrénées-Orientales, des collèges dans les zones rurales, où là, les élèves, ils ont peur d'aller, ne serait-ce que d'aller dans la ville la plus proche quand on va à Rougen, quand on va dans des petites villes, des petits villages où il y a des collèges, ils ont peur d'aller un peu plus loin. Et ça, on lutte contre ça parce qu'on essaie de leur ouvrir les horizons. C'est un peu notre objectif.
Monsieur Haut, à votre tour.
Alors moi, Jean-Paul, je suis éducateur depuis une vingtaine d'années. Ma mission, c'est d'accompagner les jeunes de la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance. Et dans le cadre de cet accompagnement, j'ai affaire à des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire. Alors, parmi le public qu'on accompagne, il n'y a pas que des décrocheurs, il y a aussi des jeunes qui ont des difficultés, il y a aussi des jeunes qui sont dans un besoin d'outils, de stages, d'expérience pour pouvoir avoir, comment dire, de l'expérience et pouvoir le retravailler sur un plan plus théorique. Et au quotidien, on accueille ces jeunes qui sont parfois encore en situation scolaire et des fois en échec.
Okay. D'accord. J'ai entendu que votre association mettait en lien plusieurs types de décrocheurs. Lesquels, par exemple ? Quels horizons ? D'où est-ce qu'ils viennent ?
Par exemple, nous, notre orienteur, c'est l'aide sociale à l'enfance via les institutions délégataires. Ils vont nous orienter des jeunes qui sont en rupture de parcours, en situation de crise et parfois en échec scolaire. Derrière, il y a tout un accompagnement à construire. On peut avoir des jeunes qui sont encore sous l'obligation scolaire et pour lesquels on va travailler avec les établissements scolaires. Et pour d'autres, on est dans une forme de rupture complète avec la scolarité. Et derrière, nous, on va essayer de construire quelque chose en parallèle avec du sens. Parce que je pense que la problématique principale, c'est la perte de sens.
Ok. D'accord. Monsieur Lelong, vous vous rendez avec l'association Énergie Jeune, vous vous rendez dans des collèges. Comment vous parlez du phénomène du décrochage scolaire à l'école ?
Alors en fait, on ne parle pas directement du décrochage scolaire. On va, comme j'ai dit tout à l'heure, on va leur donner l'envie d'apprendre. On va leur montrer qu'effectivement, avec de la volonté, de la concentration, dès qu'on a une mauvaise note en classe, on ne laisse pas tout tomber, on peut rebondir. Et alors on a dans on intervient 3 fois 1 heure dans les collèges. Et dans ces heures-là, il y a des vidéos un peu choc où on voit des personnes qui sont handicapées et dont le rêve c'était d'être basketteur. L'handicap, il n'avait pas de jambe et il manquait un bras. Donc ça, c'est des images un peu fortes qui interpellent le jeune. Il dit, ah oui, lui, il a quand même un handicap. Il a quand même réussi à faire l'équipe de France paralympique. Il a réussi à créer une association. Il a fait 3 fois le tour du monde. Donc on essaie de les prendre de revers, on va dire, pour éviter justement qu'ils se disent, j'aime plus apprendre, je ne vois pas pourquoi je resterai à l'école. Ou alors une autre personne qui vivait dans une cabane dans la forêt, qui était avec sa mère et son compagnon qui était alcoolique, donc il y avait un contexte très compliqué, qui était à 1 heure de l'école, et avec tout ce contexte-là, il joue au football, et le football lui a donné la gagne, lui a donné l'envie de se battre. Et c'est ça qu'on veut faire passer chez le collégien, lui disant, bats-toi, t'as tout pour te battre, pour réussir. Bats-toi, tu vas réussir. C'est pas vrai que t'es nul. Nous, on combat la phrase, je suis nul. Non, t'es pas nul. T'as peut-être des difficultés, mais vas-y, lève-toi, rebondis. Et c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille principalement sur la persévérance et l'autodiscipline. On essaie de faire en sorte que le collégien se prenne en main, entre guillemets. Lors du deuxième épisode, on lance un défi. Et sur ce défi, on veut qu'il ait le déclic. Alors le défi, c'est quoi ? C'est je vais faire 10 minutes de plus tous les soirs en mathématiques. C'est je vais ranger mon bureau avant de faire des devoirs. Je vais arrêter mon téléphone quand je fais mes devoirs, par exemple. Donc voilà, ça c'est son défi. Et après, quand on revient la troisième fois, on regarde s'il l'a fait. Il ne faut pas se leurrer. Tous les élèves, on ne va pas les sauver. Ça serait très bien, je serais super content. Mais si on réussit à avoir le déclic sur 2-3 élèves dans une classe de 25-30, je suis le plus heureux des hommes.
D'accord. Et est-ce que, quand vous intervenez dans les collèges, c'est quelque chose qui est familier pour eux, le décrochage scolaire ? Ils savent à peu près ce que c'est ?
Alors, ils le savent. Évidemment, ils ne mettent pas le nom dessus. Décrochage, ils ne mettent pas le nom. Mais ils mettent, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est ça sert à quoi d'apprendre ? Mais pourquoi j'apprends l'histoire ? Et ça sert à quoi que je fasse des devoirs ? Bon, voilà, donc c'est à travers ce discours-là qu'on combat cette idée que je suis destiné à décrocher, à sortir du contexte scolaire. Hein, comme vous savez, il y a une étude qui a montré qu'il y a 80 000 élèves qui sortent du système scolaire par an. Et sur ces 80 000, il y en a 50% qui finissent au chômage. Donc c'est ceux qu'on veut combattre. On essaie de mettre tout en œuvre pour que justement ces collégiens puissent avoir un avenir.
Très bien. Monsieur, Donc, Monsieur O, à Almanova, donc, et aussi Monsieur Lolland, vos associations existent depuis une quinzaine d'années environ, si je ne me trompe pas. Vous avez pu voir peut-être des évolutions vis-à-vis du décrochage, des différents profils peut-être. Est-ce que le profil du décrocheur a changé? Est-ce qu'on reste assez similaire? Comment ça se passe? Monsieur O, d'abord.
Ouais, pour ma part, quand on n'aime pas l'école, il y a 10 ans ou maintenant, c'est juste une démotivation, une perte de sens, comme je disais tout à l'heure. Moi, je ne vois pas trop le profil, le statut des jeunes changé. Je sais qu'il y a des parcours qui ne sont... Des interactions qui ne se font pas. L'institution n'agit pas toujours de la même manière, ne résonne pas de la même manière chez chaque jeune. Alors, nous, derrière, on a aussi un regard d'éducation spécialisée. On arrive à peut-être comprendre pourquoi les problématiques, de manière un peu systémique, pourquoi on en vient à ces décrochages scolaires. On essaye d'agir sur les leviers... pour réparer ces parcours-là, on recrée parfois des processus de formation qui sont un petit peu différents de du conventionnel pour essayer de raccrocher sur de la qualification, des intérêts. Mais pour répondre à votre question, moi je ne vois pas trop de différence depuis notre existence. Les jeunes qui n'ont pas cette fibre pour le décrochage. Après, ça peut se traduire par de l'oisiveté, ça peut se traduire par de la marginalité. Et là, on arrive sur l'impact de ce décrochage scolaire.
Très bien. Vous intervenez en dehors de l'école. Vous avez des formations. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire les formations en question que vous avez avec ces décrocheurs?
Alors, on essaie de reconstituer du sens du parcours et on conjugue le théorique et le pratique. Donc, on crée des chantiers éducatifs, chantiers à travers lesquels, déjà, la question principale, c'est de créer une relation, un intérêt relationnel autour d'un projet. Et puis, on va essayer d'apporter des éléments non seulement théoriques et pratiques et un accompagnement dans le faire ensemble.
D'accord. Rose?
On n'a pas eu la réponse de M. Lolland, donc j'attends ça avec impatience.
Alors, est-ce qu'on a vu une évolution du nombre ou du profil des décrocheurs avant et après le Covid? Difficile à répondre à cette question.
Okay.
Ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on vient trois fois dans l'année, trois fois une heure dans la classe, et on a... Au bout du deuxième épisode, le professeur principal choisit une thématique pour le troisième épisode. Alors ça peut être développer ses aspirations pour l'orientation. Ça peut être gérer un module, gérer des conflits dans la classe, parce qu'il sent que la classe est un peu tendue. Et puis on a créé cette année, et c'est là où je réponds un peu à votre question, mais je suis un peu d'accord avec mon collègue aussi. On a créé cette année une thématique qui s'appelle le bien-être à l'école, où on parle en cinquième du sommeil,
d'accord,
en quatrième de l'émotivité et en troisième de la place des écrans. Et ça, c'est vraiment pas nouveau parce qu'on sait que ça a plusieurs années, mais ça a un impact tel sur les élèves que là, on a une source de décrochage, entre guillemets, de perte de lien social, etc. Et donc, on essaie de à travers des toujours pareil, des vidéos, des jeux, des questionnements, leur montrer un peu l'impact que a toutes ces problématiques avec les collégiens. Quoi. Voilà.
On sait que le Covid, évidemment, a été éprouvant aussi pour les enseignants, pour les élèves. Ça peut être également, et en vérité, pour un peu tout le monde, que ce soit en lien avec l'école ou pas. Ma question est simple. Est-ce que la pandémie a impacté le nombre de personnes qui ont eu besoin de vos associations, peut-être ? Y a-t-il eu plus de décrochages liés à la pandémie?
Alors, je vais peut-être répondre rapidement.
Bien sûr.
Oui, nous, c'est clair que pendant la pandémie, comme on intervient dans les collèges, ça a été compliqué. Alors on a fait des visios, on a fait tout en visio, mais ça n'a pas du tout le même impact. Par contre, une fois qu'on a pu retourner dans les collèges, le nombre de sollicitations qu'on a eues a été très importante. Donc ça a redémarré sur des chapeaux de roue et on a d'ailleurs eu plus de collèges depuis deux ans.
D'accord.
Que avant la pandémie. Quoi. On a en tout, on a en tout, en France, on a plus de 126 000 élèves qu'on a rencontrés. Et en Languedoc, au Sillon, on a plus de 6 000 élèves, 346 classes dans lesquelles on intervient, 50 collèges. Okay. Donc voilà.
Oui, le Covid a provoqué un tas de dégâts et au niveau des institutions, avec les espèces de mobilisations internes, avec les cours à distance. Et on sait très bien que ça a été très, très difficile, même pour les jeunes qui n'ont pas de difficultés scolaires. Alors nous, on a dû réfléchir à notre moyen d'intervenir et puis on est intervenu sur site. Donc on a essayé de recréer à l'intérieur des institutions une dynamique de continuité de la relation, du travail et des objectifs. Ça s'est traduit par des interventions en interne, des chantiers de rénovation en interne, avec toujours ce lien vers la préqualification, la formation et l'insertion.
Très bien. On est bientôt donc à la fin. Quelle conclusion vous tirez de vos actions? Et aussi, on parle beaucoup de solutions, mais comment l'éducation nationale, au sens institutionnel, pourrait améliorer la prévention du décrochage scolaire, selon vous, Monsieur O?
Alors, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des passerelles à développer. Évidemment, les dispositifs existent. Il y a des mesures, il y a des aides, il y a des opérateurs. La question, c'est est-ce que tout le monde a les bons outils au bon moment? L'information, est-ce qu'elle transite assez fluidement? Est-ce que, par exemple, les CPE ont la connaissance de ces dispositifs? Alors, a priori, oui. Mais je pense que c'est encore insuffisant. Et développer cette information pourrait vraiment aider à la jeunesse de prévenir de l'échec scolaire et voire d'agir en cas de situation dramatique.
Monsieur Leland.
Oui, alors, c'est une question qui est un peu compliquée parce que, bon, l'éducation nationale, sa priorité, c'est évidemment les matières pédagogiques, enfin, les matières pédagogiques qu'on connaît tous. Nous, notre slogan « Aimer apprendre » est justement en complémentarité par rapport à ces matières-là. Est-ce que l'éducation nationale doit changer quelque chose? Sûrement, parce que bon, 80 000 jeunes qui à la fin décrochent du milieu scolaire, il y a sûrement quelque chose à faire. J'ai pas la réponse. Nous, on essaie avec nos moyens dans l'association justement de donner une réponse. C'est pas la seule, il y en a plein. Et j'espère que ça aidera quand même tous nos professeurs qui sont quand même très impliqués. Moi, je rencontre tous les jours des professeurs dans tous les collèges. Ils sont super impliqués quoi, là-dedans. Donc, à deux, on va y arriver. Ou à trois, ou à quatre, à plusieurs, on va y arriver. Je suis optimiste.
Alors, on arrive à la fin de notre interview. Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'ici pour l'année prochaine, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut...
Alors, je prends la parole vite fait. Alors, moi, comme toute association, vous savez, on fonctionne avec des bénévoles. Donc la structure de nos bénévoles, c'est, tout à l'heure vous en avez parlé, des volontaires de service civique, des retraités, des gens qui sont détachés d'entreprise, comme moi. Moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de bénévoles, de volontaires qui nous rejoignent, parce qu'on a besoin de ces gens-là. On a du mal à répondre à la demande des collèges, parce qu'on manque de personnes. On forme toujours les bénévoles avant d'intervenir. Mais quelqu'un qui a un peu de temps libre, qui a la volonté, qui sait parler devant une classe, banco, venez nous rejoindre. Donc je souhaite qu'on ait beaucoup plus de bénévoles.
Je suis complètement d'accord avec mon camarade. On a besoin de mécènes de compétences. Alors pour l'animation d'un atelier, par exemple, de soudure, d'électricité, ou alors un accompagnement en français, en mathématiques, sur des objectifs très précis, CFG ou autres, préparation au concours, aux entretiens. Donc c'est un appel aussi aux bénévoles, si vous souhaitez réagir. L'association Alma Nova vous ouvre les portes. On a beaucoup de jeunes qui ont besoin de vous.
C'est super. Bah, merci beaucoup à vous deux. Vos réponses ont largement pu nous éclairer sur les questions du décrochage. Sur ces paroles, on va laisser place à Lou Jourdain et Axel Juin pour leur reportage.
Collecter des informations et les transmettre, c'est le cœur du métier de journaliste.
Si on peut, on va pas s'en priver, hein.
Bah ouais, ouais, ouais.
Reportage.
Bonjour à vous. De quoi allez-vous nous parler ce soir?
Alors aujourd'hui, on va parler du décrochage scolaire. On a été à la rencontre d'Inès Tézac et Ceti Lopez, qui ont 18 et 20 ans. Elles ont toutes les deux connu un décrochage scolaire et ont accepté de nous parler de leur expérience.
Alors souvent, lors d'un décrochage scolaire, les jeunes ont du mal à comprendre et à témoigner de leur mal-être, surtout à leurs proches. La peur du rejet et de la honte de décevoir jouent beaucoup dans le malaise et la pression des jeunes en question.
Alors l'école de la seconde chance, c'est très simple. En fait, on va faire des remises à niveau. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas de France qui sont là. Et en fait, on va faire du français, des maths, etc. Et aussi, on va surtout chercher des stages. En fait, on va surtout avancer dans notre projet pro, faire des stages et comprendre ce qu'on veut faire en fait. Donc vraiment ça nous éclaire notre chemin vers le métier en fait qu'on veut faire.
Donc en plus de l'école de la seconde chance, Inès et Ceti sont toutes les deux passées par le service civique combiné qui a été pour elles une source d'épanouissement. Elles nous ont parlé de leur expérience en nous expliquant le fonctionnement de ce service civique.
Le service civique combiné, déjà c'est quand on est mineur, on va être sur 3 jours de mission. Par exemple moi j'étais à l'UFCB, j'apprenais le numérique aux seniors. Et le jeudi, vendredi, j'allais au lycée Jean Monnet. Et au lycée, on faisait beaucoup d'ateliers, par exemple d'estime de soi, poésie, etc. Et voilà, ma mission, j'y allais... en fait, c'est comme si je travaillais. Voilà, j'apprenais le numérique aux seniors.
En fait, c'est une initiative personnelle. Pendant 2 ans, j'étais totalement découragée. J'avais envie de rien faire, juste rester chez moi. Au fil du temps, j'avais envie quand même d'essayer de m'en sortir, de pas rester dans une situation comme ça. Et donc, j'avais envie d'être utile et aussi de me faire de l'argent. Et j'ai découvert, grâce à mon frère, le service civique. Et donc, j'ai voulu y participer. Ça m'a vraiment redonné confiance en moi. La confiance que j'avais perdue pendant mon décrochage, je l'ai retrouvée là-bas parce que je me suis vraiment sentie utile.
En 2021, ils étaient 145 000 jeunes à tenter leur chance dans un service civique. Quelles solutions peuvent trouver ces gens devant un tel phénomène? Pour beaucoup de jeunes, cela passe par un autre type de formation, une autre voie possible, l'insertion directe dans le monde du travail par un stage. De telles insertions permettent directement de connaître le béaba d'un métier qui convient, une voie plus professionnelle et plus enrichissante en somme.
Le parcours pour arriver chez Louis Vuitton, donc pendant mon service civique, j'ai fait un stage de découverte à la mercerie de Montpellier. Ensuite, ça s'est bien passé et j'avais envie de faire un CAP dans la couture, donc un CAP couture, et en apprentissage. Et donc, la mercerie a bien voulu m'accueillir exceptionnellement pour 2 ans pour que je devienne apprentie chez eux. Et donc, j'ai appris pendant mon CAP la couture. Et suite à ce CAP que j'ai réussi à obtenir, j'ai pu me diriger vers la maroquinerie, donc chez Louis Vuitton. Pendant mon CAP, j'ai pu avoir une légion d'honneur des apprentis. Donc, c'est une récompense qu'on a quand on est assidu dans son travail, quand on fait bien les choses pendant notre CAP. J'avais envie de le faire et j'ai pu m'accrocher. Voilà.
C'est une belle revanche, bravo à elle et merci à vous deux. Je me tourne vers nos invités du jour. Est-ce que ce reportage un peu vous a interloqué? Est-ce que vous avez des réactions à donner sur la fin, par exemple, du parcours de Ceti?
Je me retrouve un petit peu dans cette situation parce que l'association cette année a demandé l'agrément de service civique, toujours dans l'idée de construire des parcours intermédiaires entre nos bénéficiaires, les décrocheurs scolaires, et les jeunes en quête de sens qui pourraient apporter quelque chose dans ces accompagnements. Et on a réfléchi sur des solutions d'utilisation d'outils numériques pour favoriser les parcours.
Oui, alors moi je suis super content d'avoir entendu ce reportage de cette jeune fille. D'ailleurs, je me dis qu'on devrait avoir peut-être une interview pour le mettre dans nos témoignages, pour montrer justement à nos collégiens, vous voyez, on peut partir de loin et puis arriver très haut. Alors, je rebondis juste sur les services civiques. Donc, effectivement, nous on a l'agrément et cette année, j'ai par exemple 7 services civiques entre Perpignan, Montpellier, Nîmes, Alès, qui interviennent pour nous. Donc ça leur donne confiance Alors je vais dire elles, parce que c'est que des filles là, cette année. Ça leur donne confiance en elles, elles prennent la parole devant des classes, elles s'affirment. J'ai vu des jeunes filles arriver toutes timides et puis j'ai senti chez elles un potentiel et tout de suite elles ont gagné en confiance. Et l'année dernière on en avait aussi, donc c'est un bon tremplin pour nos services civiques aussi, l'association.
D'accord, super. Bah, merci à vous deux pour votre intervention. C'est maintenant au tour de Laura Battista de prendre le micro pour sa chronique Ailleurs, c'est comment ? Et c'est à Naples qu'elle nous fait atterrir. Laura, c'est à vous.
Bonjour à tous. Alors, dans ce premier épisode de la chronique Ailleurs, c'est comment ? Je vous emmène de l'autre côté des Alpes, en Italie. Là-bas, on va découvrir l'initiative d'un ancien professeur qui a décidé de consacrer une partie de sa vie à la lutte contre le décrochage scolaire. Posons nos valises à Naples, troisième ville d'Italie, située au sud-ouest de la Botte. Dans les quartiers un peu chauds de la ville, la sonnerie de l'école ne résonne pas pour tous les élèves. Certains ont même décidé de quitter ces lieux, synonyme de rejet et de perte de temps. Pourtant, un homme imposant, aux cheveux poivre et sel et à la barbe bien prononcée, en a décidé autrement. Cet homme, c'est Cesare Moreno, fondateur de l'association Maestri di Strada, ou Maître des rues en français. Cet asso, né au début du siècle, en 2003 exactement, vient en aide aux élèves décrocheurs, surtout au croisement des quartiers Barra, San Giovanni et Ponticelli, lieu d'action de la Camorra, une mafia napolitaine et où la pauvreté a fait ses marques. Concrètement, l'asso se compose d'éducateurs, d'enseignants, de psychologues et même de parents. Ce groupe cherche à aider les jeunes à construire un projet de vie, même lorsqu'ils vivent dans des conditions difficiles. Les maîtres des rues ont une philosophie pour ça. Pour enseigner à une personne qui vit des situations difficiles, la première chose à faire est de vivre sa douleur avec elle et d'utiliser ses connaissances pour l'aider à s'en sortir. Pour Cesare et son équipe, pas question de laisser un jeune en difficulté sur le côté. Et à la question « Comment faire revenir des élèves dans un système qu'ils ne comprennent pas et qui les stigmatise ?», Cesare Moreno a sa petite idée. Nourrir les cours avec la réalité des élèves. Pour le dire autrement, se servir du quotidien des élèves pour alimenter les enseignements. Avec cette association, la Divine Comédie, l'œuvre de Dante, premier grand texte italien, les grands classiques de la littérature italienne deviennent les supports pour parler de la réalité de ces quartiers difficiles. Autrement dit, ces œuvres intemporelles s'actualisent au travers des récits de ces jeunes en difficulté. Et il faut croire que le système fonctionne. À ses débuts, Maestri di Strada opérait dans trois quartiers. Maintenant, c'est dans près de 20 écoles de la municipalité. De plus, l'association a désormais ses propres locaux. Une bâtisse qui compte pas moins d'une trentaine de classes. Au total, l'association peut compter sur le soutien financier de quelques partisans nationaux. Mais la plus belle satisfaction reste pour Cesare Moreno de voir ses anciens élèves entrer à l'université, comme Carmine qui avait validé sa première année aux Beaux-Arts de Naples avec un brillant 29 sur 30. Et comme pouvait le dire Carla Melazzini, l'épouse de Cesare Moreno, décédée en 2009, de la fissure d'un mur en ruine peut fleurir une fleur merveilleuse.
Merci Laura. L'heure de colle, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine sur Divergence FM.
Ce qui a modifié évidemment la pratique des enseignants en éducation aux médias et l'information.
On a 45 absences pour ce matin.
C'est bien évidemment l'apparition des plateformes de médias sociaux.
Handicap et scolarité revêtent des situations très différentes auxquelles l'inclusion tente de répondre.
Son école, il ne veut plus en franchir la grille.
Selon une étude, un quart des écoles ne propose aucune éducation à la sexualité.
Pour l'instant, l'institution ne prend pas la mesure du mal-être dans l'éducation nationale. Ça, c'est sûr.
Mais l'école, elle sert également à apprendre ce qui se passe dans le monde.
C'est l'élève au centre parce que c'est lui le plus important dans le système en fait.
Bienvenue dans l'heure de colle.